Les enjeux internationaux, Thierry Garcin,
rebonjour. Bonjour Marc Moinchet.
Vous suivez votre série sur les régionalismes indépendantistes en Europe et aujourd'hui vaste programme. Mais vous avez un grand ambassadeur avec vous, donc ça devrait aller.
Absolument.
Georges-Marie Chenu.
Effectivement.
Les Balkans,
Georges-Marie Chenu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ambassadeur à Zagreb entre 1992 et 1993. On va voir les conséquences de la dislocation yougoslave. On sait que le pays avait volé en éclats dès le début de 92, donnant naissance à de nouveaux États à ce moment-là. Cette désintégration par la guerre illustra d'ailleurs la profonde division des Européens. Alors depuis cette dislocation, le Monténégro s'est séparé de la Serbie par la négociation en 2006 et le Kosovo s'est autoproclamé indépendant en 2008 après 9 ans d'administration directe de l'ONU, laquelle avait suivi le bombardement de la Serbie par l'Alliance Atlantique en 1999, mais sans l'accord de l'ONU. Et puis, il faudra se pencher sur l'avenir. Alors, Georges-Marie Chenu, ce qui est frappant, c'est qu'on avait dit pendant des décennies, il n'y aura plus de guerre en Europe. Et en fait, et on pensait évidemment, dans le contexte des rapports Est-Ouest, il y a eu non seulement une guerre, mais plusieurs guerres.
Vous faites bien de souligner la guerre, parce que c'est en fait les violences. Ce qu'on pourrait appeler la brutalisation de la population qui a créé cette espèce de chaos à la fois militaire, politique, économique qui a duré à peu près 5 ans. Alors il y a une chose qui est intéressante à noter, on a tendance à dire que s'il y a eu ces tentatives, ces demandes d'autonomie puis d'indépendance, c'était dû aux vieilles querelles qui datent, paraît-il. Eh bien, en fait, c'est pas exact. Figurez-vous que, alors qu'on discutait sur l'avenir de la Yougoslavie après la mort de Tito, et ça a duré à peu près 10 ans, grosso modo, de 80 à 90, en Bosnie-Herzégovine, en mai 90, il y a eu un sondage dans des villes importantes. 88% des populations interrogées ont demandé à rester en Yougoslavie. Je dis bien en 90. En Croatie, en décembre 90, Tudjman était maintenant le président. Nouvelle constitution. La République de Croatie reste dans le cadre de la République socialiste fédérative de Yougoslavie jusqu'à un nouvel accord entre les États. Au Monténégro, sondage quasi unanime pour rester dans la fédération. C'était le président Momir Bulatovic. En fait, les sécessionnistes, ce ont été les Serbes qui étaient à l'extérieur de la Serbie. En Croatie, en février 91, à Knin, ils ont proclamé une autonomie. Ils ont déclaré qu'ils feraient une autonomie avec l'idée d'une république reliée d'ailleurs à la Serbie. En Bosnie-Herzégovine, en janvier 92, les Serbes de Bosnie-Herzégovine ont déclaré une république autonome avant même le référendum qui avait lieu en février 92. Référendum demandé d'ailleurs par la communauté européenne. Donc, ce qui fait que il faut bien reconnaître et il faut bien mettre le doigt sur ce point. C'est les brutalités, c'est le blocage des négociations. Et ça, c'est dû à la position de Milosevic et de ses hommes, et la brutalisation de la population. Figurez-vous qu'en octobre 90, la Croatie et la Slovénie proposaient de transformer la Yougoslavie en une confédération. Ça a été immédiatement accepté par la Bosnie-Herzégovine, par la Macédoine, refusé par qui ? Par la Serbie et le Monténégro.
Alors, on ne va pas évidemment refaire toute l'histoire des prémices, oui. des signes avant-coureurs. D'ailleurs, il faudrait rappeler aussi, dans la précipitation de la dislocation yougoslave, la responsabilité de l'Allemagne, du Vatican et de l'Autriche, et l'Allemagne ayant reconnu unilatéralement les premières indépendances en décembre 91, alors qu'elles étaient engagées vers le 15 janvier 92, en commun accord avec les 12 de l'époque, si mes souvenirs
sont. Je nuancerai un peu cette appréciation. J'étais sur place à ce moment. Le Vatican avait prévenu par deux fois, réunissant les ambassadeurs de l'Union européenne en disant « Écoutez, il se passe un massacre, vous ne faites rien ». Or, l'Allemagne, en fait, n'a pas tout à fait reconnu. Elle a dit qu'elle reconnaîtrait en décembre. Mais et l'Allemagne
en lâchant les autres Européens.
Oui, mais l'Allemagne connaissait beaucoup mieux la situation en Yougoslavie à cause des travailleurs qui étaient en Allemagne et qui racontaient ce qui se passait réellement. Il y avait un écart entre la connaissance française de ce qui se passait dans les Balkans, en Yougoslavie, et les Allemands, les Geistarbeiter, tous les jours, annonçaient des nouvelles qui étaient négatives.
Alors, en ce qui concerne, disons, la situation d'aujourd'hui, est-ce que la dislocation yougoslave est achevée ? Parce qu'on a tendance à penser que, par exemple, ce n'est pas un hasard si 5 pays de l'Union européenne ne reconnaissent pas le Kosovo, pour d'excellentes raisons d'ailleurs. Et d'autre part, on se demande aussi, on s'interroge souvent sur la Bosnie-Herzégovine. On en a parlé il y a quelque temps à propos des législatives avec Jean-Arnaud Derrins dans cette émission. Et au fond, est-ce que la dislocation est terminée ? Et Jean-Arnaud Derrins disait, d'ailleurs, parce qu'il a une formation d'historien, il disait, il y a quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, au fond, l'indépendance du Kosovo n'est pas la dernière pièce du puzzle yougoslave ou post-yougoslave, c'est la première pièce d'un puzzle plus global, pan-européen. Et on a vu que la Crimée est presque une réponse à l'indépendance du Kosovo. Alors, finalement, est-ce que la Bosnie-Herzégovine ne va pas, un jour, par la négociation, être redessinée ?
C'est une
vraie question. C'est une question d'ailleurs pendante, on va dire.
Exactement.
Qui n'a pas de réponse.
Je n'ai pas de solution. La seule chose que je peux dire, et là j'en suis absolument certain, c'est que les accords de Dayton, fabriqués par les Américains,
95,
ne sont absolument pas adaptés à la situation.
Ah bah figurez-vous,
vous avez 120
gaz.
Ministres de l'éducation. C'est pas sérieux. Et en plus, les accords de Dayton vont à l'encontre des principes qui avaient été adoptés, qu'on ne reconnaîtrait pas les territoires conquis par la force et qu'il n'y aurait pas de nettoyage ethnique. Or, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est la carte du nettoyage ethnique qui a dessiné actuellement la Bosnie-Herzégovine.
Alors c'est un peu compliqué évidemment parce qu'on n'a plus ça en tête, mais c'est passionnant. C'est le fait, il faut rappeler que pour les accords de Dayton, ils reposaient, vous en savez quelque chose, vous avez été ambassadeur à Zagreb, sur l'instauration d'une fédération ou d'une confédération bosniaque musulmane et bosniaque croate, et qui était là aussi un prérequis pour mettre les bosniaques serbes dans la boucle.
Eh bien, c'était en effet un mariage, à mon avis, pas très heureux, des raisons, parce que ça a suscité, alors là, ça a réveillé des tensions qui datent d'autrefois, et en plus parce que les musulmans, il faut bien le reconnaître, se sont comportés en patrons, alors qu'ils auraient dû, dans une fédération partagée, et il faut bien reconnaître, et à mon avis, c'est une chose qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est qu'il y a une attitude... c'est pas tellement public, mais c'est diffus, anti-chrétienne en Bosnie-Herzégovine. Or, les Croates, qu'ils soient de Croatie ou qu'ils soient de Herzégovine, du Sud, sont chrétiens. Donc, si vous voulez, il y a encore deux problèmes qui sont pendants. C'est, est-ce qu'il y aura une Grande Albanie, qui est à mon avis une idée beaucoup plus intellectuelle que politique, pour des raisons, la différence de trajectoire à la fois du Kosovo et puis l'Albanie. Et d'ailleurs, ça obligerait à redécouper les frontières avec la Macédoine, avec le sud de la Serbie. Et peut-être, le Monténégro, non, c'est pas suffisant. C'est un problème, je crois, beaucoup plus agité comme un épouvantail qu'une réalité. Enfin, c'est mon point de vue. Et le deuxième problème, c'est celui de la Bosnie-Herzégovine. Personnellement, je ne vois pas de solution, sinon de recommencer complètement. Complètement remettre les gens autour de la table.
Vous voulez dire dans l'ensemble de l'ex-Yougoslavie ?
Je ne pense pas qu'on puisse toucher aux frontières et qu'on puisse faire en sorte que la Bosnie-Herzégovine soit absorbée. Ce qui était le projet, figurez-vous, de Tudjman et de Milosevic, qui étaient prêts à se partager la Bosnie-Herzégovine. Ce qui est absolument, je le reconnais, totalement indigne de la part des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Pourquoi pas ? Mais je crois quand même que la Bosnie-Herzégovine devrait rester dans une... Avec le temps, peut-être que les relations s'amélioreront, mais j'ai eu l'impression qu'il faudra beaucoup de temps. Et en tout cas, l'Europe n'est mal placée actuellement pour le faire. Or, c'est l'Europe qui devrait le lancer, et non pas les Américains.
Oui, parce que les accords de Dayton sur la Bosnie-Herzégovine, les Européens en ont été écartés par Washington. Dayton, c'était une base militaire, je ne sais plus où, d'ailleurs, aux États-Unis.
Figurez-vous que les cartes oui. n'ont même pas été montrés à la délégation française. Elle a dû se battre pour avoir les documents essentiels qui sont les cartes. Les cartes, c'était les cartes du nettoyage ethnique.
Et éviction aussi des Européens, c'est l'époque où les forces de l'ONU, notamment les Anglaises et les Françaises, ont été remplacées par l'Alliance Atlantique. Exactement. C'est-à-dire par les États-Unis d'Amérique.
D'ailleurs, on peut se demander, rappelez-vous, la force d'intervention rapide, elle a réussi par les bombardements, remarquables d'ailleurs, de précision. Hein. On peut se demander si les Américains n'étaient pas inquiets de voir une victoire européenne alors qu'ils voulaient marquer la région et puis un petit peu humilier l'Europe et sinon pas se précipiter, envoyer Holbrook, à mon avis, trop rapidement, pas bien préparé, et qui a créé cette espèce de monstre, cette usine à gaz qui les accords de Dayton. Mais c'est à mon point de vue personnel. Je n'ai pas vu encore des historiens développer cette idée.
Alors, il y a une question évidemment absurde, mais il faut la poser aussi pour l'avenir. Est-ce qu'on peut imaginer un micro-État musulman résultant de la Bosnie-Herzégovine, mais à partir évidemment comme noyau de la communauté musulmane
bosniaque ? Je ne peux pas répondre à cette question, je voudrais simplement...
Non, ce sont des questions d'ailleurs purement spéculatives.
C'est que l'islam bosniaque, ou l'islam des Balkans en général, résiste remarquablement aux extrémistes. Il y en a quelques-uns, il y a quelques djihadistes qui vont. Ils partent d'ailleurs du Kosovo et ils partent de Bosnie-Herzégovine. Mais l'islam européen, vous n'avez pas... Le problème de l'alcool, on n'en parle pas, mais on consomme. En plus, vous n'avez pas de... c'est un islam qui serait un modèle, peut-être, pour l'islam tel que nous souhaiterions en cohabitation.
Bon, écoutez, il y a encore beaucoup de questions à vous poser. Merci en tout cas, Georges-Marie Chenu. Vous avez été ambassadeur à Zagreb de 92 à 94 et demain nous poursuivons par la Catalogne.